troisième, mon premier cours de psycho, c'était un cours de psychanalyse sans que ce soit dit. C'est-à-dire que l'enseignant nous a parlé du réel, de l'imaginaire, de la réalité, en parlant de l'orgasme. Et je me dis où je suis tombée, là, dans une secte, on me demande de croire. Bref, j'ai découvert la méthode scientifique avec les autres disciplines de psychologie, la psychologie expérimentale, la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie différentielle, etc. Et donc c'est grâce à la psychologie différentielle que je me suis intéressée aux représentations sociales entre eux. J'avais un groupe qui m'intéressait particulièrement, les filles et les garçons. Donc j'ai, entre 1993 et 2002, j'ai travaillé sur des représentations sociales particulières que je vais vous détailler. Alors, pas encore. Cette année, en mai 2008, le groupe sur la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale a déposé un rapport sur la situation des femmes dans le milieu scientifique en France et pose très rapidement un constat dès le premier chapitre. Hein. La place des femmes dans le monde scientifique correspond à une situation paradoxale et alarmante. Paradoxale et alarmante, on va voir pourquoi. En 85, déjà, le ministère de l'Éducation nationale avait demandé aux académies, constatant la situation particulièrement inégale des filles dans les filières scientifiques, avait posé comme objectif aux académies que, alors le délai était court et peut-être illusoire, hein, entre 3 et 5 ans, il devait y avoir entre 10% et 20% de filles qui devaient augmenter dans les filières académiques. Voilà, c'était posé comme ça. Et il y avait des axes de travail qui étaient proposés. Voilà ces axes de travail, donc sensibilisation en formation des élèves, des familles et des personnels enseignants, amélioration de l'accueil des filles dans ces filières, c'est le moindre des choses, et aide et suivi à l'insertion professionnelle des filles munies alors d'un diplôme technique et industriel, puisque c'est quand même là qu'il y en a le moins. Donc trois axes de travail intéressants. Et en fait, on s'aperçoit que, quand on fait l'évaluation 10 ans plus tard, en 1995, tous les efforts se sont concentrés sur le premier axe, uniquement, donc c'était à minima, du fait d'une implication très différente et pas très active des personnels concernés à tous ces niveaux-là. À partir de l'an 2000, est proposée une convention pour la promotion d'égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif. Et c'est une convention interministérielle qui est renouvelée depuis tous les 3 ans, qui a été renouvelée en 2007. Et voici ce qu'elle propose comme action. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes axes demandés en 85, à favoriser l'accueil et l'insertion des filles, développer l'information générale sur les filières et les métiers des domaines scientifiques, technologiques et professionnels, relancer la réflexion et mener des campagnes d'information sur femmes et sciences pour continuer à développer l'accès des filles aux filières scientifiques, là en allant plus loin puisqu'on parle encore de classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, études doctorales. Donc il est autre chose que d'envisager simplement qu'il y ait plus de filles en terminale au lycée. Mais déjà, ces conventions-là signifiaient le constat d'un partage sexué des savoirs qui perdurait. Alors, on va faire le bilan. Le bilan a été fait. Alors, ces bilans sont présentés les 8 mars. D'aucuns discutent, je ne ferai pas de commentaire dessus, sur l'utilité du 8 mars. Mais justement, il sert quelquefois aussi à présenter des bilans chiffrés sur la situation des filles et des femmes dans le monde. Le 8 mars, je rappelle, Journée internationale des droits des femmes. Voilà ce bilan. Donc, il date de 2017 et porte sur la situation en 2015. Vous voyez, donc ça fait sur 20 ans, 21 ans. Alors, comment on va lire ce schéma? Il faut voir ça. La ligne en gros, c'est la moyenne des 3 filières. Donc, en sciences et technologies laboratoires, STL, En 94, 49% de femmes, 57,2. En 21 ans, 8% d'augmentation. En filière ES, la filière d'excellence, 40,2. 21 ans après, 46,7. 6 points. Donc ce qu'on avait demandé en 85, qui devait arriver en 5 ou 6 ans, on voit que 21 ans après, ça arrive à peine. Ça arrive à peine, on demandait 10%. Hein. Alors, je ne sais pas comment était posée cette espérance d'activation d'envie, mais on voit que ça, c'est très long. Quant à la filière STI D2, Sciences et Techniques de l'Industrie et Développement Durable, alors ça, c'est une filière qui a remplacé la filière, le bac STI. Hein, dans cette filière-là, la dernière, là, il y a 4 spécialités. Innovation technologique et éco-conception, système d'information et numérique, énergie et environnement, architecture et construction. Donc là, on voit carrément qu'il n'y a aucune évolution, c'est dramatiquement semblable. Et donc la moyenne de ces trois filières, donc 33%, 41%, ça fait 8% en 21 ans, qu'est-ce qui se passe ? Pour les autres baccalauréats généraux, on sait que les filles sont fortement majoritaires en filière L. Donc, quand j'ai dû travailler sur des questionnaires pour interroger des filles en filière L, c'était facile. Mais pour interroger des garçons en filière L, j'ai dû faire 5 lycées différents. Donc 80% en ES, elles sont 60%. Et ces deux chiffres, 80 et 20, varient très peu. C'est toujours stable. En terminale S, qu'est-ce qui se passe? On voit que les filles et les garçons en terminale S ne choisissent pas les mêmes spécialités. Alors, on lit dans ce sens-là. Hein. La part des filles en pourcentage dans les différentes filières. Et j'ai mis filles en rouge et garçons en vert. Vous pensez bien que je vous ai évité le rose et le bleu. C'est la moindre des choses. Donc, la filière la plus significative, c'est le gros écart en sciences et vie de la Terre. Il y a plus de filles, elles sont 49%, et les garçons, 26%. 26% des garçons prennent SVT, 49% des filles. En agronomie, c'est pareil, physique-chimie, c'est pareil, mathématiques, c'est plus ou moins égal, informatique, numérique, on sait actuellement que c'est vraiment le gros problème, hein, alors que c'est un secteur qui fait quand même que c'est l'avenir et la maîtrise de beaucoup de savoirs et de communication. Les sciences de l'ingénieur, elles ne représentent que 3%, et les garçons, 17%. On a un constat quand même d'inégalité assez visible. Je ne l'ai pas marqué au tableau, mais en 2015, sur 53 200 étudiantes et étudiants inscrits en école préparatoire aux grandes écoles scientifiques, 29% sont des filles, alors qu'elles sont 74% dans les mêmes écoles de prépa littéraire. Plus tard, on sait que 59% des docteurs en lettres sont des femmes, 40% parmi les docteurs en sciences. Donc, pour ne pas rester sur le territoire français, cette problématique de l'insertion des femmes dans le monde scientifique a été posée par l'UNESCO comme un problème mondial en 1990. C'est normal ce bruit là devant?
Oui, c'est souffle.
Ah oui, c'est mon souffle. Bah, j'avoue que je suis la seule femme là, je suis un peu stressée, je sais que je peux m'attendre à des commentaires, pas forcément. Donc voilà, j'ai peut-être un petit 18 de tension. Marie-Hélène, tu me
Je te rassure, le bruit était le même hier avec.
C'est vrai?
Avec Gisèle tout à l'heure, oui. Cette explication-là ne vaut pas.
Il me manque une diapo, ça, c'est pas la bonne. Hein. Il me manque les bilans. Oh, on l'a levé hier soir. Il manque celle des bilans. Bon. Les bilans des actions. Ah, bah, j'ai les là. Ah, attends. C'est pas grave, c'était des phrases. C'était la diapo 7. C'était ça qui était hébreu, tu sais. C'est pas grave. C'était, en fait, je voulais vous dire que malgré... C'est pas grave. Malgré la volonté affichée, puisqu'on voit qu'il y a des volontés au plus haut niveau quand même de faire bouger les choses, malgré les nombreuses actions diversifiées, je vais les détailler à la fin, on voit que la situation, elle évolue, mais pas aussi vite que l'on le souhaiterait qu'on l'avait prévu. J'espère que le reste suivra. Donc, nous sommes en présence d'un fait social. D'où le titre, vous avez compris, que la science est un genre et qui est masculin. Tant science, c'est un mot féminin. Comment ? La science.
C'est pas à ce niveau-là qu'on fait la science.
Si on commence à dire quoi ?
Non.
Si on commence à dire quoi ? Ça dépend des disciplines. Oui,
mais c'est.
C'est de la science, hein.
Mais je suis d'accord. Tu penses bien que j'ai des arguments. Je continue, vous ferez vos remarques après, s'il vous plaît. Alors, pour étudier ce fait social, j'ai fait appel au concept de représentation sociale qui s'inscrit dans une architecture de pensée sociale. Vous acharnez pas trop sur la phrase, je vais la commencer. Pourquoi je me suis servi de représentation sociale ? En matière d'orientation scolaire et professionnelle, on sait que les processus représentatifs ont une grande importance. Il est admis, recherché, que quand on choisit un métier, une voie d'orientation, on compare la représentation qu'on a de soi à la représentation sociale qu'on se fait d'un métier, lui-même inscrit dans un domaine, un champ d'application, et qu'il n'est pas impossible que l'appariement qu'on se fait entre ce qu'on pense être et le métier ait une importance. Donc les processus représentatifs sont très importants. On remarque en ce qui concerne la représentation sociale des filles dans les choix des métiers, ces processus ont l'air particulièrement résistants, donc il est intéressant de les étudier. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de mon directeur de thèse, Michel-Louis Roquet, selon de la région, hein. Une représentation sociale est une variable dépendante d'une causalité matérielle, sociale et historique et interdit qu'on la réduise à n'être que le produit d'une activité cognitive individuelle. C'est pas juste j'ai une pensée comme ça, je me lève un matin, non, pourquoi ? Je suis amenée à penser, hein. Le sujet social penseur est un sujet amené à penser ce qui pour lui est pensable. Ça c'est important. On ne pense pas par hasard. Je digresse un peu, mais quand on voit la journée des associations, tous les tenants qui nous disent, hein, je sais que Florian, tu as fait quelque chose sur l'entretien épistémique, qu'est-ce qui fait qu'il tient à ça, hein, qu'est-ce qu'il a été amené à penser ce qui pour lui est pensable? Voilà, ça nous rend un peu humbles dans nos discussions. D'autre part, toujours en ce qui concerne les représentations, un défi théorique, c'est une sociologue, hein, Marie Durvella, un défi théorique est de comprendre comment, à travers des comportements habituels, individuels, se retrouvent produites un certain nombre de régularités sociales. Donc j'ai empoigné ce défi et j'ai traité ce fait social, cette problématique, en me servant de la théorie des représentations, de la structure des représentations sociales, que j'ai déjà proposée dans une conférence il y a quelques années ici. Vous vous souvenez pourquoi il est si difficile de changer d'avis ? Je vais parler d'architecture de la pensée sociale. Alors pourquoi cette architecture ? On considère que la pensée sociale est faite de différentes instances. Quand vous voyez ces jolies flèches, ce qu'on a fait avec Serge hier soir, on va partir du haut. Hein. Cette architecture, elle est organisée autour de deux variables : la stabilité, hein, vous voyez, plus stable ou plus changeant. Et la généralité, c'est-à-dire que chaque instance concerne des groupes de plus en plus petits. Les idéologies, ça concerne un peu une société, les opinions, on les produit en se levant le matin. Et du plus stable au plus changeant, ben, les idéologies sont persistantes, on le sait. On ne fait pas changer les gens d'avis comme ça. Quand on dit que les mentalités n'évoluent pas, on fait référence aux idéologies. Et les opinions, selon la façon dont on vous pose la question à la sortie du polygone, en vous posant la main sur le bras. Monsieur, vous êtes d'accord? On sait que si on ne vous met pas la main sur le bras, vous répondez différemment et vous pouvez tout à fait produire une opinion, en plus sur un sujet qui ne vous concerne pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été soumis à des sondages d'opinion par téléphone. On vous pose une question, vous avez envie de produire quelque chose pour faire plaisir à la personne qui vous répond, mais c'est jamais stable. Donc dans ce domaine-là, les idéologies, je vais revenir au thémata, les idéologies engendrent des représentations sociales. C'est parce qu'on a un corpus de pensée organisé, diffusé dans la société, hiérarchisé quelquefois, qui produit des représentations sociales sur des objets de la société. La science et les métiers scientifiques sont un objet de la société. Ces représentations sociales, entre elles, engendrent des attitudes qui peuvent donner lieu à des opinions. Alors, les idéologies, je dis, ça ne change pas. Les représentations sociales, on va voir que dans la mesure où on a décortiqué leur structure, ça met à peu près 50 ans à bouger, une représentation sociale, et ça change souvent sous l'effet des pratiques. Les attitudes, on peut les faire changer. Quand j'étais à terre, au labo de psychosocial de Montpellier, j'avais un télé sur le changement d'attitude. Et au cours d'une heure, on faisait une échelle d'attitude, on mesurait par exemple sur un objet la chasse, on mesurait l'attitude des étudiants pour ou contre la chasse, qu'est-ce que vous aimez sur une échelle. On faisait sortir ceux qui étaient pour, aller prendre un café, et ceux qui étaient contre. On leur faisait produire ce qu'on appelle un texte contre-attitudinel, c'est-à-dire en une demi-heure, écrivez pourquoi vous êtes pour la chasse, vantez la chasse. Et pendant une demi-heure, ils étaient obligés de travailler à trouver des arguments. On faisait revenir tout le monde, on remesurait les échelles d'attitude. Bien entendu, ceux qui étaient partis boire un café, ils n'avaient pas changé. Et on s'apercevait que significativement, ceux qui avaient produit un texte contre-attitudinel avaient changé d'avis, plus ou moins, mais significativement. Alors, je vous rassure, c'est pas si simple, sinon tous les esthéticiens seraient formés à ça. Ça a duré un ou deux jours. Mais on arrivait à faire changer. Et les opinions, c'est ce qu'on recueille sur... Voilà. On n'a pas forcément une opinion, mais on est bien content d'en produire une, en tout cas. Je reviens aux idéologies, puisque j'ai mis thémata en rouge. Pourquoi c'est important les thémata dans les idéologies? Les thémata sont décrites par les anthropologues, les gens qui réfléchissent sur les idéologies, ce qu'on appelle des notions premières, organisées en système binaire d'opposition. Thomas, hier soir, parlait du quali. Moi, j'ai cru qu'il parlait de la déesse, mais non, il parlait du qualitatif. Qualitatif, quantitatif, c'est un théma. Le dur, le mou, c'est un théma. Hein, moi, j'ai fait des sciences non molles. De l'autre côté, on fait des sciences dures. La route de Gange à Montpellier. Hein, de l'autre côté, vous avez la fac de lettres. De l'autre côté, vous avez... Donc, d'un côté, il y a 75% de filles. De l'autre côté, il y a 75% de garçons. C'est significatif quand on traverse. Le dur, le mou, le chaud, le froid. Et puis, Françoise Héritier, l'anthropologue, montre que le genre est un des premiers thémata identifiés. Le masculin, le féminin, son remarquable ouvrage en deux volumes, Masculin-féminin, la pensée de la différence. Donc, puisqu'il y a dans ce fait social, vous marquez qu'il y a moins de filles dans les filières scientifiques, quelles sont les représentations sociales qu'elles en ont, comparées à celles des garçons? Est-ce qu'il y a un thème, est-ce que le thème du genre y joue un rôle et comment? Est-ce qu'on peut éventuellement en trouver d'autres? Donc j'ai travaillé sur la représentation sociale des métiers scientifiques et de la science au collège et au lycée, sur les représentations de métiers scientifiques en 6e et en 3e, dont j'ai comparé 4 groupes, et plus tard au lycée, où les choix d'orientation sont faits. J'ai aussi regardé, puisqu'on sait que l'outil principal d'accès aux sciences sont les mathématiques, quelle place jouaient ces mathématiques si c'était proposé, un écureuil, si c'était proposé dans les représentations, si c'était nommé, et quelle place les filles et les garçons y accordaient, est-ce qu'il y avait une place différente éventuellement. Alors, je vais vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus. Mais j'ai commencé par étudier, par rechercher la connaissance que les garçons et les filles avaient des scientifiques célèbres. J'ai donc posé la question. J'ai interrogé 88 élèves des deux sexes, des deux classes, 6e, 3e. Donc, ils ont entre 10 et 14 ans. Donc, je leur demandais de nommer d'abord s'ils connaissaient des personnages scientifiques célèbres, et de nommer d'abord les hommes, ensuite les femmes. Activer un peu la mémoire, hein, nommer tout de suite des femmes, j'avais feuille blanche. Donc, en cherchant les hommes, ils trouvent les femmes. Sachant que, ben, comme dans l'histoire, on sait que les principaux héros scientifiques sont des femmes, sont des hommes. Je rêve là, je fantasme. Je voulais voir si cette absence de modèle féminin avait un effet sur la mémoire des filles. Sur la mémoire des filles. Voici les résultats. Donc, quelle que soit la classe et quel que soit le sexe, Marie Curie est la seule femme scientifique célèbre à citer. Alors, j'ai adoré parce qu'il y a des élèves qui ont fait des efforts, qui ont voulu me faire plaisir, peut-être, je ne sais pas. Ils ont cité leur prof de science quand c'était une femme. Il y en a un qui m'a écrit « ça n'existe pas ». Comme les femmes, quand ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et il y en a un, alors il n'avait pas encore lu la fille de mai-juin 2018, mais il m'a cité la femme d'Einstein. Hein, vous avez lu l'article sur Mileva Einstein dans la fille hein, de cet été, hein, vous vous rappelez ? Voilà. Donc, Marie Curie, quand on pense qu'elle a eu deux prix Nobel, sa fille, elle a eu un prix Nobel, Irène Joliot-Curie. C'est le même nom. C'est, voilà, Marie Curie. Ensuite, quelle que soit la classe, 6e, 3e, les garçons, si vraiment c'est significatif à 0.01, toujours plus d'hommes scientifiques célèbres que les femmes, et si bien plus qu'elles, des mathématiciens. Alors je me suis dit, bon, bah, l'intérêt pour la science, quand je demande à une classe, l'intérêt scientifique est mélangé, donc j'avais fait un questionnaire après pour séparer en 3e les garçons qui envisageaient de faire un métier scientifique plus tard et les filles aussi. Et même là, c'est significatif à 0.04, un petit peu moins. Les garçons citent toujours plus que les femmes des hommes scientifiques et plus qu'elles des mathématiciens. Dans le rapport que je vous ai cité en préambule remis à l'Assemblée nationale en mai 2018, dans les préconisations, on dit qu'il faut créer un observatoire de vigilance sur ce qui sort dans le manuel scolaire. Hein, voilà, quand on parle des femmes, on les fait exister. On n'est pas forcé d'aller rechercher dans Wikipédia si on ne sait pas ce qu'on recherche. Et on peut se demander si c'est vraiment... Ça a dû être refait, hein, ces questionnaires-là, mais un tel effet sur la mémoire des filles, et c'est quand même inquiétant. C'est dommage de ne pas leur faire connaître des héroïnes qui peuvent appeler des vocations. D'autant plus que, c'est pas qu'il en... On sait très bien qu'il en existe des femmes scientifiques, sauf qu'elles ne sont pas célèbres. Et là, il règne en la matière. Je ne sais pas si c'est un biais de pensée. Ça s'appelle l'effet Mathilda. Alors, il n'y a pas de thé à Mathieu. Donc, on va étudier l'effet Mathilda versus l'effet Mathieu. Donc, dans le milieu du siècle, Margaret, c'est une historienne des sciences, Margaret Rossiter. Elle est préoccupée par le fait que on sait que des femmes scientifiques ont collaboré à des progrès. Elle s'intéresse plus particulièrement à une femme scientifique italienne du XIe siècle, je vais vous en parler, mais elle considère que le fait que leur progrès ne soit jamais monté en épingle comme ceux des hommes, elle compare ça à l'effet de ce que dit Matthieu dans l'évangile. Matthieu ou Matron, non, c'est Matthieu, je pense, par moi, c'est pareil. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Elle considère qu'en matière de science et de connaissance de ce que les femmes font, c'est un peu pareil. Les hommes reçoivent beaucoup, de plus en plus, ils ont même des prix. Rosalind Franklin, elle a quand même participé à la connaissance du brin d'ADN, hein, quand même. On l'aurait pu la citer. Et donc, pourquoi l'effet Mathilda ? Elle se rend compte que c'est une minimisation systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Et pourquoi l'effet Mathilda ? Elle a beaucoup travaillé sur Trotula de Salerne. Trotula, c'est un joli prénom. Trotula de Salerne était une femme médecin et chirurgienne du XIe siècle. Elle a écrit énormément d'ouvrages traitant de la santé des femmes. Son ouvrage principal, Le soin des maladies des femmes, je vous le sors pas en latin, devient un ouvrage de référence en gynécologie. Mais quand il sort, on se demande, non, il a dû être écrit par un homme, c'est pas possible. Donc on ne lui reconnaît pas la valeur et l'écriture de cet ouvrage. Et c'est, les Fématisa, c'est du nom d'une militante féministe de la fin du 19e, que je connaissais, dont Margaret Rossiter avait entendu parler, Matilda Josinkech, qui avait déjà remarqué que dans les discours, en général, quand une femme émettait une idée, on ne l'entendait pas. C'était repris, la même idée était reprise par des hommes. Je pense qu'on l'a toutes plus ou moins constaté, ça. Je ne dis pas que ça s'est passé ici. On le constate. Ah, je dis... oh oui, c'est bien. J'invente pas, hein. Je regarde un feuilleton américain en ce moment. Insecure. Personne ne regarde Insecure. Bref, je vous raconterai la pause. Des détails. Revenons aux représentations sociales. Donc j'ai entamé l'étude structurelle d'une représentation sociale. Alors quand on parle de structure d'une représentation, l'épithèse-vous, on considère que la structure est plus intéressante que le contenu. En méthodologie scientifique, on peut faire des analyses de contenu, mais selon qui c'est qui fait l'analyse, va créer des catégories personnelles. Je sais qu'on peut créer plein de catégories. Donc si chacun, chacune fait son analyse de contenu avec ses propres catégories, on va trouver des choses différentes. Il n'y a pas, c'est pas super scientifique. Donc on s'intéresse à la structure et pas au contenu. Qu'est-ce que ça veut dire, les structures ? La structure d'une représentation sociale, on considère que dans une représentation sociale, donc ce qu'on émet comme discours sur un objet, il y a deux éléments différents. Des éléments de discours qui appartiennent à ce qu'on appelle un noyau central, des éléments centraux, et d'autres qui sont périphériques. Alors la différence entre ces deux éléments, vous vous rappelez la conférence d'Adeline il y a 2 ans, hein, vous avez déjà été briefé sur ce qu'est la structure d'une représentation sociale. Les éléments centraux, on ne change pas d'avis quand on les a. Ils ont vraiment une stabilité temporelle. Et ils entretiennent un consensus. Alors, ils sont peu nombreux dans leur présentation. Les éléments périphériques, ce sont les autres éléments du discours qui ne sont pas aussi conditionnels. Ils sont plus souples, ils permettent le changement. Par exemple, j'ai entendu dernièrement qu'on disait que, bah oui, les chasseurs se mêlent d'écologie, ils entrent. Mais en fait, quand on étudie la représentation sociale de la chasse dans les années 70, un chercheur d'ici, Christian Guémély, qui a cherché, le noyau central des chasseurs, c'est le même que celui des écologistes. C'est-à-dire, il y en a d'autres, c'est tuer du gibier, bien sûr, mais c'est préserver la nature. Et ça, ça ne change pas. Ils le disent toujours. Donc, quand on s'intéresse et repérer des différences entre deux groupes au sujet d'une représentation, on va s'intéresser au noyau central. Et on considère que deux représentations sociales sont différentes si et seulement si elles ont le noyau central différent. Ça permet un repère. Et c'est pour ça aussi que, vous avez vu l'architecture de la pensée sociale, tous les niveaux de stabilité, hein, dans la structure de la représentation sociale, ça s'explique par cet élément, le noyau central, qui fait qu'on ne change pas d'avis. Les esthéticiens, on voudrait que tout le monde pense que l'homéopathie, c'est que du sucre. Il faudrait étudier la présentation sociale de l'homéopathie. Ça serait intéressant de savoir. Bref. Donc, c'est intéressant d'aller rechercher. Alors, j'ai fait une première recherche sur la représentation de la science. Donc avec 176 sujets, des garçons et des filles, de 6e et de 3e. Donc j'ai fait une étude transversale. Donc j'avais 2 variables, hein, le sexe et l'âge. Je me suis servie pour faire cette étude d'une analyse qu'on appelle l'analyse prototypique, c'est-à-dire qu'on fait associer, j'ai fait associer des mots au mot science. Associer rapidement 3 mots au mot science. garçons et filles. Ensuite, on classe les mots selon des critères d'apparition. Les mots les plus cités, cités en premier. Les mots les moins cités, cités en premier. Les mots les moins cités, cités en premier. Les mots les moins cités, cités en dernier. Et avec un tableau, on arrive à déterminer quels sont les éléments les plus significatifs, qui sont les éléments du noyau central. Donc ça pour les quatre groupes. J'ai regroupé ces résultats dans un tableau. On voit que pour les filles, en sixième et en troisième, le noyau central de la représentation de la science, et le prototype, c'est la biologie. Et les filles de sixième associent majoritairement des mots comme animaux, corps humain, plantes, vie, respiration. En troisième, elles ajoutent physique, mais c'est vie, médecine, corps, terre, humaine. Quant aux garçons, en dessous, en sixième, c'est aussi biologie. Ils ne font pas de physique encore, hein, ça se comprend. Mais il y a très peu de production autour de la biologie naturelle, bon, parce qu'on parle de sciences naturelles, animaux. Donc, on pourrait dire que les filles, les garçons de sixième ont la même représentation autour de la biologie, mais que les filles étoffent un petit peu plus en associant plus de mots. Et en troisième, en revanche, les garçons, une représentation différente des filles de troisième, puisque pour elles, l'élément central, pour eux, l'élément central, c'est mathématique. Et les mots qu'ils associent à science, c'est pas du tout dans le domaine naturel. Ils parlent d'Einstein, d'atomes, informatique, technologie, électricité, bombe nucléaire. Les mots les plus significatifs. Les filles n'emploient jamais ces mots. On peut dire qu'il y a déjà une différence. Mais qu'est-ce que ça induit ? On va voir. Je suis allée chercher au lycée, je vais vous en parler tout à l'heure, mais déjà, les mathématiques, on peut dire que cet outil qui va leur servir, qui va servir aux élèves d'avoir accès aux métiers scientifiques, ils commencent déjà à en percevoir l'importance. Ils le citent. Hein, c'est une, quelque chose qu'on peut discuter, mais en tout cas, bon, bah, il faut en prendre note. On sait aussi que les stéréotypes en la matière vis-à-vis des mathématiques, les filles en sont victimes, les garçons non. Est-ce qu'on peut penser qu'avec ces résultats-là, il n'y aurait pas un nouveau théma, finalement, organisateur de pensée, hein, un théma est un organisateur de pensée syntaxique et sémantique, organisé autour du vivant, vivant versus inerte, le noyau central des filles organisé autour du vivant, le noyau central des garçons organisé autour de l'inerte. Ça a été proposé, discuté, on est d'accord qu'il y a un nouveau théma. Alors, je vous ai parlé de structure de représentation, il y a des éléments centraux, des éléments périphériques. Je ne vous ai pas dit que ces éléments, ils ont des relations entre eux, ils ont des liens entre eux. Effectivement, on peut dire, bon, bah, les filles associent ça, les garçons associent ça, mais quel lien on fait ? Quelle est la nature du lien sémantique entre le fait de dire la science c'est ça, ou la science c'est ça? Il y a un modèle qui s'appelle, c'est celui que Adeline avait présenté, le modèle de schème cognitif de base, qui détaille la caractéristique de ces liens qu'on fait entre un mot qui parle de l'objet de représentation sociale qu'on fait évoquer et le mot qu'on y associe. Donc il y a trois façons de distinguer ces trois liens. On peut parler en termes de description. J'associe ça à la science parce que je décris ce que je veux dire. En termes de fonctionnalité, j'associe ça à la science parce que les mathématiques, c'est utile. En termes d'attribution, j'associe des goûts à science parce que la science, ça me dégoûte, je dis ça, mais bon, vous voyez. Donc, praxis, attribution et description. Donc, j'ai travaillé sur ces deux liens, fonctionnalité et attribution. Et en matière de théorie de représentation sociale, on considère que plus un groupe est proche de l'objet de représentation, donc proche, concerné, impliqué, plus il en parle en termes de fonctionnalité. Et moins il en est proche, plus il en parle en termes d'attribution. Donc j'ai fait un petit texte pour demander aux garçons et filles de raconter pourquoi ils choisissaient tel et tel mot associé aux sciences. Et effectivement, les filles décrivent plus des liens en termes d'attribution et les garçons en termes de fonctionnalité. Et ça, c'était significatif aussi. Donc, il y a vraiment tous les niveaux que j'ai étudiés, une représentation différente de la science. On ne peut pas dire que c'est la même représentation sociale. Faut que j'aille vite. Alors, en terminale, j'ai fait des recherches en terminale, bien sûr, puisque je me disais, bon, ben, c'est sûr que la présentation qu'on se fait d'un métier à cet âge-là, en troisième, c'est pas forcément abouti, c'est pas structuré, c'est en essence. Donc, j'ai travaillé sur des filières où il y avait vraiment déjà des choix, et j'ai voulu comparer la présentation que se font les terminales littéraires et les terminales scientifiques, des métiers scientifiques, toujours garçons et filles. C'est là que j'ai eu toutes les difficultés du monde à trouver des garçons en terminale littéraire. Et donc j'avais fait un entretien exploratoire avant pour savoir s'il pouvait y avoir dans un... élaborer un petit peu une représentation pour trouver deux mots inducteurs des métiers scientifiques. Et dans les entretiens que j'avais faits, il était apparu que revenait très souvent le mot mathématique et le mot débouché. Les métiers scientifiques offrent des débouchés. On le sait qu'ils vont. Même ceux qui n'aiment pas les maths et les sciences, ils y vont aussi pour faire, pour pouvoir faire plein de choses avant. Les filières littéraires n'offrent pas tout ça. Il paraît que ça va changer. Donc. Et il n'y avait plus à l'heure de filière. Et donc, je voulais voir si des pratiques différentes, hein, des choix de métier, donc déjà des pratiques différentes de choix, pouvaient entraîner des représentations sociales différentes. Alors, voici les résultats. Donc, j'avais repéré deux éléments saillants dans le discours, hein, mathématiques et débouchés. Alors, les résultats, je vous résume en trois lignes, 50 pages de recherche. Alors, contre-intuitivement, mathématiques est l'élément central pour ceux qui sont les moins concernés. Donc, chez les filles et les garçons terminales littéraires, et chez les filles de terminales scientifiques, vous allez me dire, mais elles sont concernées puisqu'elles y sont. Historiquement, elles sont moins concernées que les garçons. Historiquement, c'est les garçons les héritiers des héros scientifiques. Ils sont légitimes à être en science. On sait qu'ils leur ont refusé l'accès aux premières facultés. Hein, je ne sais plus en quelle année, mais il y avait une manifestation d'étudiants. Pas de femmes, la science se fait entre hommes. Hein, vraiment, c'était violent. En France, oui. Donc, mathématiques est l'élément central. Il est périphérique pour les garçons scientifiques, alors qu'en troisième, il avait mis en avant. Et débouché périphérique pour les quatrièmes. Ils en parlaient beaucoup dans le discours, mais c'est justement là que l'analyse structurelle est intéressante et pas l'analyse de discours. Parce que si on s'était seulement arrêté à l'analyse de discours, la métier scientifique, c'est le débouché. Maintenant, avec une analyse structurelle, on s'aperçoit que c'est un élément périphérique, finalement. Donc, est-ce que ça veut dire que mathématiques centrales pour les filles et les garçons en terminale littéraire et scientifique et pas pour les garçons en terminale scientifique? On peut penser que, une fois qu'ils ont compris, les garçons, que mathématiques c'est l'outil, ils ont compris en troisième, bon, après ils n'y pensent plus. C'est pas central. Par contre, les filles terminales scientifiques, elles savent qu'on va les juger là-dessus. On sait qu'on les attend en tournant sur les mathématiques. Elles savent qu'il faut être meilleur là-dedans. Il y a un effet de stéréotype. Une fille de terminale littéraire avait associé métier scientifique, avait associé mathématiques et merde. Ouais. Ça ne veut rien dire, mais vous, ça veut dire quelque chose quand même. Alors, les mathématiques, quel rapport avec les filles? Donc, on s'aperçoit qu'on le sait que ça coince un peu. En 93, il y a deux parfums qui sont sortis en France, Givenchy et Estée Lauder. Le premier parfum s'appelait Pi, le second s'appelait Intuition. Je vous laisse deviner lequel était destiné aux femmes et lequel était destiné aux hommes. Mais ce qui était rigolo, savoureux, c'était ce qu'en disaient les magazines féminins, cher à Serge. Cher pour l'étude. Ah, mais alors Marie-Claire, tu vois, je ne savais pas, mais on cite les mêmes sources. Marie-Claire, pour vanter le parfum masculin Pi, donc elles disent que c'est un parfum pour hommes, bien sûr, puis elles disent... Pour la majorité des femmes, ce symbole et le nom rappellent de douloureuses prises de tête. Flashback de CM1. La plupart des hommes le reconnaissent et frétillent de l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer en science, mais on sait que ça frétille. Dès que son nom magique est prononcé, c'est Pi, le 3-14, l'infini.
Et ça date de quand?
93. 98, bon, c'est pareil. Et intuition s'est inventée comme ce sixième sens, si féminin. Hein, on sait aussi que dans le stéréotype sexué, l'intuition c'est pour les femmes, la raison c'est pour les hommes, c'est un stéréotype. Et on sait que l'accès au métier scientifique passe par l'habileté mathématique, hein, d'abord. Donc il y a des aptitudes. Il y a des aptitudes qui sont interrogées chez les filles pour ces métiers-là. Et on sait qu'en matière d'aptitudes, le rapport PISA, je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui, le rapport PISA fait par l'OCDE, je ne sais pas si c'est chaque année, mais bon, on le fait pour tous les pays du monde. C'est vrai, tous les 5 ans. C'est vrai que les garçons ont des résultats légèrement plus importants. Enfin, meilleur que ceux des filles, mais pas dans tous les pays. Hein, donc déjà, l'hypothèse naturaliste sur un cerveau différent en ce qui concerne des compétences disparaît. En Chine et à Singapour, les filles sont meilleures. En Israël aussi, une certaine année. Mais ce n'est pas les résultats de l'an dernier de l'OCDE. Bon. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur les aptitudes. En ce qui concerne les aptitudes, alors les stéréotypes en la matière ne sont pas du tout favorables aux filles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? J'aime bien les Québécoises parce qu'elles parlent de stéréotypes et de stéréonana. C'est parlant. Il me manque encore un... Ben non, j'ai pas... Ben si, j'avais ce... Oh non, c'est pas vrai. Ça ne fait rien. Passant d'un ordinateur à l'autre. Si, je l'avais fait hier soir. Les stéréotypes. Bon, tant pis. Vous savez, un stéréotype, c'est un ensemble de croyances concernant un groupe particulier. Le danger de ces croyances, c'est qu'elles sont descriptives et prescriptives. Les croyances en matière de femmes et de garçons décrivent ce que nous sommes censés être en matière de beauté, de grâce, de force, de virilité, de féminité, et prescriptive parce que par rapport à ce que nous sommes, on pense que nous allons faire des choses. Donc on attend des filles dans les métiers d'infirmière, par exemple, et quand il y a quelques garçons qui s'y mettent, c'est toujours 15% chaque année. Hein. Je travaille dans un institut de formation en infirmier. Les garçons sont aussi porteurs de stéréotypes, parce que j'avais quand même un garçon qui travaillait chez Nicolas pendant qu'il faisait sa prépa pour le concours, et il se faisait traiter de... Un garçon qui adopte des pratiques de femme, vous savez de quoi il se fait traiter. Donc les stéréotypes en la matière ne sont pas favorables. Ces stéréotypes pèsent. Ils amenuisent la compétence, l'image qu'on a de soi quand on n'est pas attendu dans une matière. Mesdames, je ne sais pas, celles qui ont à peu près mon âge, vous avez ce slogan célèbre sur les femmes au volant. Qu'elle est celle qui conduit de la même façon quand il y en a à ma côté ou quand elle est seule. Menace du stéréotype. On peut s'en affranchir, hein, mais on en parlera aussi à la pause. Donc on parle de menace du stéréotype. Alors la menace du stéréotype, elles sont plus sensibles les filles. Et on a cherché un petit peu comment ça se passait. Et on fait travailler des filles et des garçons. Alors là, on prend deux groupes de filles et de garçons. On a pris des filles et des garçons qui étaient très bons en mathématiques et un autre groupe qui était moyen. Et on fait passer deux épreuves, les mêmes épreuves dans chaque groupe. Dans le groupe d'étudiants très bons, on leur dit la première tâche, elle est facile, mais il faut savoir que la deuxième tâche, elle est moins souvent réussie chez les filles. Que se passe-t-il à votre avis? La première épreuve où il n'y a pas de menace du stéréotype, les résultats sont sensiblement égaux, significativement égaux en tout cas. Et le deuxième, les filles ont vraiment un pourcentage de réussite moindre. Et s'il se passe pareil dans le groupe où les gens sont moins forts. Donc, et ça, c'est quelque chose que des chercheurs ont repris en France aussi. Selon l'habillage de la tâche, on sait qu'il y a une partition sexuée des savoirs, la géométrie fait partie des mathématiques, et on s'attend à ce que les filles soient moins fortes, du coup elles intériorisent le stéréotype, et elles pensent qu'elles y sont moins fortes aussi. Donc on présente un dessin que les élèves doivent refaire, ça a été fait je crois sur des terminales, Le dessin, c'est la figure de Ré, ceux qui ont fait Psycho ou Psychopatho. Bon, c'est un dessin, c'est un gros poisson avec plein de traits. On leur demande d'observer le poisson et de le refaire une fois le modèle enlevé. À un groupe, on dit que c'est une tâche de géométrie. À notre groupe, on dit que c'est une tâche de dessin. Donc, dans le groupe où ça a été présenté comme une tâche de géométrie, les filles réussissent mieux, c'est-à-dire qu'elles font moins de traits, elles se souviennent moins bien, parce que l'anxiété que procure la mémoire du stéréotype ne facilite pas la mémoire du travail. Donc elles réussissent moins bien quand c'est présenté comme une tâche de géométrie. En revanche, quand c'est présenté comme une tâche de dessin, ce sont les garçons qui réussissent moins bien. Parce que dessin, c'est sexué aussi. Donc vous voyez qu'on est loin de l'hypothèse naturaliste, quoi. On peut varier selon ce qu'on attend de vous, vous faites ou vous ne faites pas. En gros. Bon, ben j'arrive à la fin, heureusement. Ça veut dire que selon les réputations sociales négatives qu'on a sur ce qu'on va faire, ça peut entraîner des comportements qui vont valider cette réputation. On dit que les stéréotypes sont des prophéties autoréalisatrices. Donc, en conclusion, je propose un tour d'horizon des actions entreprises pour que les filles aillent plus vers les sciences. Donc, des campagnes publicitaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, vous voyez un garçon et une fille au même départ d'une course. Le garçon n'avait pas d'obstacle. La fille, quand elle commence à partir, elle avait des haies. Et donc, on les voyait partir. Et puis, la fille regardait le garçon. C'était un spot qui passait. Il y avait des spots aussi, c'est technique, c'est pour elle. Donc on a fait plein de campagnes publicitaires. Des conventions ministérielles, interministérielles, des circulaires dans l'éducation, s'il y a des enseignants, ils savent qu'on en parle tout le temps. Loi d'orientation sur l'égalité des chances. Une action qui existe toujours, le prix de la vocation scientifique et technique pour les filles. J'ai eu la chance d'être membre du jury quelques années pour l'Académie de Montpellier. Donc c'est un prix de 1 000 euros. Qui est distribué aux filles qui ont des projets de métier qui ne sont pas classiques. Quand j'étais membre du jury, on avait eu chef de chantier, ingénieur aéronautique, ingénieur informatique, architecte naval, conductrice de travaux, créatrice d'entreprise de fabrication de pièces automobiles pour les voitures anciennes, professeur de mécanique. Donc on disait bien, hein, dans chaque académie, voilà. Alors, on a fait une évaluation au bout de 10 ans. Je ne sais pas si elle a été refaite depuis, mais à l'époque, en 2000, je crois. En fait, les filles ne voyaient pas... Elles pensaient que c'était une récompense pour leurs bons résultats. Elles n'ont pas vu l'incitation sexuée à investir un champ où il y avait peu de garçons. Elles n'ont pas vu ça. Elles se sont dit, bon, on me récompense pour mes bons résultats.
Peu de filles,
je remplace. Donc bon, ça continue quand même, c'est toujours ça, hein. On sait qu'en matière de pensée sociale, on sème des graines, hein. On voit ce que ça donne. Donc comme on le remarque, donc il y a une division sexuée de l'orientation, mais qui se déroule dans l'indifférence générale. Toutes ces circulaires, toutes ces actions-là, c'est depuis pas très longtemps que ça se diffuse dans ce qu'on appelait les IUFM, et encore ces modules sont optionnels. Vous avez vu le scandale qu'ont représenté les ABC de l'égalité pour faire réfléchir les enfants sur les stéréotypes. Ça a dû être retiré, mais ça partait de la même intention, hein, que ces circulaires interministériels. C'est diffusé aussi dans... Je vous ai dit que les idéologies sont diffusées par les médias. Il y a toute une imagerie populaire du fait que les femmes ne soient pas bonnes en sciences. Je me souviens d'un magazine 20 ans. En gros titre, c'était « Les filles intelligentes sont-elles sexy ?» ou voilà, des choses comme ça. C'est un petit truc, un petit coup de mortel. Hein, derrière la tête, allez, tu vas être sexy à l'adolescence, tu vas être intelligente, il faut choisir, hein, parce que ta carrière ne sera pas la même avec les garçons quand tu es hétéro. En 1998, j'avais assisté à un colloque sur l'orientation scolaire et professionnelle à Montpellier, et il y avait une publication de chercheurs canadiens, L'Arrivée et Voyer, qui disait, comme le montraient les études sur les liens génétiques environnementaux, les humains ont tendance à choisir l'environnement qui leur convient, jusque-là on est d'accord, et partant la profession qui répond à leur disposition génétique. Dans cette optique, il reste tout à fait naturel de compter plus d'hommes que de femmes dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie, les mathématiques ou la chimie organique, vu les habiletés visio-spatiales qu'ils requièrent. Voilà, je vous parlais de naturalisation des différences. Je vous l'ai dit. Selon les chercheuses en psychologie cognitive Marie-Claude Urtig et Marie-France Picheva, elles disent qu'il y a une résurgence systématique de l'exploitation survalorisée de ces différences par le biais de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous avons Billy Sastre. Pas que. Donc, voilà. C'est systématiquement exploité. Il y a une différence, même chez les petites, on va voir ce qu'on peut en faire, parce que peut-être que ça explique des trucs. Donc on s'aperçoit que ça vient tôt, cette différence de représentation, qu'il y a peut-être un thème à l'arrière, parce que ce thème du vivant, là, il y a quand même un domaine que les filles ont investi, qui est quand même relativement scientifique, c'est la médecine. Or, les filles, elles y sont massives de plus en plus. On parlerait presque de faire un quota pour les garçons bientôt. La médecine, c'est du vivant. Il y a l'outil mathématique. Et là, elles réussissent. Elles ne vont pas en informatique, en revanche. On peut se poser des questions. Hein. Il y a aussi cette question-là. Donc là, je finis. En conclusion, hein, l'évolution est tellement lente qu'on ne peut pas parler de progrès. Donc on a une différence de représentation assez tôt. Je viens de parler des études de médecine. Et puis on parle aussi de... la science est un enjeu de pouvoir aussi. Qui c'est qui a le pouvoir dans nos sociétés, hein? Est-ce qu'on peut casser ce lien? Tant mieux que la science soit encore un enjeu de pouvoir. Ça veut dire qu'elle est encore dans l'importance. Hein? Mais c'est toujours vers les mêmes populations. Voilà. Je vous remercie.